Bonjour, bonjour. Une heure de pudding avec Jean Croc et Nicolas Herrera.
Pour une heure de pudding, la recette est simple.
Une invitée.
Un invité. Une rencontre.
Une conversation.
Un portrait.
Une réflexion.
De la complexité.
Complexité. Une musique bien mélangée.
Aujourd'hui,
avec nous dans le pudding, Claude Agege. C'est ça, une heure de pudding.
Mmh. Ah oui, il est bien. T'en veux ?
Eh bien, bonsoir, Claude Agege.
Bonsoir.
Bienvenue dans le pudding de Radio Nova. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission ? Avec un nom de gâteau anglais. Eh bien, c'est tout simplement une conversation à trois, avec comme originalité, c'est d'avoir un mix musical qui nous baigne et qui nous permet de parler avec de la musique. Donc,
j'espère que c'est de la musique classique.
Ce n'est pas que de la musique classique, mais c'est une musique fort agréable.
Y en a-t-il aussi ?
Donc, vous, Claude Agege, vous venez pour parler de votre dernier livre qui s'appelle « Les religions, la parole et la violence » qui est aux éditions Odile Jacob. Et aussi, on va parler de vous. Alors, vous êtes linguiste.
Oui.
Hein? Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas la signification exacte de cette passion, parce que c'est plus une passion qu'un métier, qu'est-ce que ça veut dire exactement « linguiste » ?
Eh bien, puisque vous parlez de la passion et du métier à la fois, je reprends vos deux termes. Car il faut bien avoir une motivation pour exercer une activité professionnelle. J'ai des collègues qui sont linguistes parce qu'ils sont professeurs d'une langue, ils ont espagnol, russe, allemand, anglais, ou parce qu'ils sont traducteurs à l'origine, ou parce qu'ils sont intéressés par le langage en tant que philosophe. Moi, ma morsure, mon biais, mon angle d'attaque, c'est une passion dévorante depuis la petite enfance. J'ai toujours adoré les langues, follement, passionnément, et par conséquent, je suis devenu un linguiste professionnel, non pas avec un horizon philosophique d'interprétariat ou d'autre chose, mais avec l'amour et la passion des langues. Quant à mon activité, elle consiste à rechercher sur le terrain, car je suis un linguiste de terrain, des langues en voie d'extinction, menacées par des langues de grande diffusion mondiale, comme l'anglais, cette malédiction d'anglais impérialiste que je déteste, pour ça, impérialisme, comme le français, malheureusement aussi, comme l'espagnol, comme le portugais, les grandes langues de diffusion mondiale qui sont en même temps, en dépit de leur intérêt interne, des langues oppressives et redoutables pour les petites langues tribales et régionales en voie d'extinction. Donc je suis un linguiste de terrain qui étudie ce type de langue-là.
Vous voulez dire que c'est des langues qui prennent complètement toutes les petites langues au dépourvu, quoi.
Et puis qu'ils les effacent peu à peu.
Elles ne prennent pas complètement, elles leur prêtent beaucoup de mots. Mmh. L'emprunt, car c'est un problème surtout de mots, de dictionnaire, de lexique. La grammaire et la prononciation, évidemment, sont beaucoup moins influencées. Mais le lexique, le vocabulaire, est fortement influencé. C'est ça l'angle par lequel les grandes langues de diffusion mondiale attaquent et menacent et mettent en danger les petites langues tribales et régionales.
Mais il y a eu ça en France, en fait, par le français et le patois, les langues régionales qui ont petit à petit un peu disparu, non ? C'est un peu cette...
Aujourd'hui, la menace, en effet, est encore très sensible. Elle a rendu plus ou moins moribondes les grandes langues. Sont réputées langues, le breton, le basque, l'occitan. Sont réputées plutôt dialectes, le corse, le flamand, entre Dunkerque et Bayeul, à la frontière de la Belgique, et le normand, et un certain nombre d'autres langues. Donc, on a affaire en France, en effet, soit à des langues, soit à des dialectes, qui tous ont été menacés par la pression très forte exercée par le français. C'est comparable, vous avez raison de les évoquer, à la vie des langues tribales où je me rends, c'est-à-dire dans la brousse africaine, dans les réserves indiennes, amérindiennes du Canada ou des États-Unis, dans les régions tibéto-birmanes au pied de l'Himalaya, dans la... brousse également de l'Amazon au Brésil, etc. C'est comparable, bien qu'à une échelle différente.
Donc, vous parlez aussi plusieurs langues, c'est-à-dire que non seulement vous vous intéressez aux langues, mais vous parlez vous-même les langues, vous les avez étudiées, vous les pratiquez. C'est ça qui est assez impressionnant dans votre...
J'ai une raison de parler un certain nombre de langues, c'est que souvent les langues en question sont mes langues d'enquête. Quand je vais dans la brousse amazonienne au Brésil, j'enquête en portugais naturellement, avant d'apprendre et de réussir à me servir pour enquêter sur elle-même la langue tribale que j'étudie. Quand je vais au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou... en Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta. Je me sers du Peul et du Hausa, qui sont deux grandes langues, disons, véhiculaires de l'Afrique musulmane depuis l'ouest jusqu'à l'est. Et par conséquent, je me sers de langues, il faut bien que je parle un petit peu quand je vais.
Comment vous apprenez toutes ces langues? Parce que vous les apprenez assez rapidement, en fin de compte, non?
Les langues se ressemblent. Mmh. Elles se ressemblent à deux titres. D'abord, elles se ressemblent génétiquement. Il est évident que lorsque vous connaissez bien une langue romane, vous connaissez assez bien les autres. La connaissance approfondie du français vous permet de vous débrouiller très bien en italien, en portugais, en roumain, en espagnol. La connaissance approfondie du russe vous permet de vous débrouiller en tchèque, en slovaque, en ukrainien, en biélorussien, en polonais, etc., etc. En d'autres termes, la connaissance approfondie de l'allemand vous permet d'apprendre les trois langues scandinaves qui sont pratiquement une seule, quelqu'un d'Oslo parlant avec quelqu'un de Copenhague et de Stockholm, chacun dans sa seule langue, ils se comprennent tellement les langues scandinaves sont proches. Donc il y a une parenté génétique. À côté de ça, une parenté typologique, c'est-à-dire que les langues se ressemblent beaucoup par le fait qu'elles ont toutes un système phonétique, il faut bien prononcer les mots, elles ont toutes un système morphologique, il faut bien des formes, elles ont un système syntaxique, il faut bien que ces formes soient agencées entre elles pour faire des phrases, elles ont un système lexical, il faut bien produire du sens. En d'autres termes, ce qui facilite ou rend moins difficile l'apprentissage des langues, c'est cette parenté d'abord génétique, ensuite typologique.
Et par exemple le chinois, si on prend le chinois, on rentre dans une autre...
Le chinois.
Le
mandarin.
Mandarin,
oui. Il y a aussi le cantonais.
Oui, je parle du mandarin, enfin, on aurait pu parler du cantonais, mais je parle du mandarin. Le mandarin a une autre grammaire, une autre syntaxe complètement différente des langues occidentales, par exemple.
La différence fondamentale, je parle couramment le mandarin, évidemment j'en ai absolument besoin quand je vais enquêter en Chine, la différence fondamentale... C'est que le chinois, d'abord, mandarin, appelons le chinois pour simplifier, il s'agit du mandarin, c'est-à-dire chinois du Nord, ce qu'on appelle Pei Fang Hua. Pei Fang Hua, Pei veut dire le Nord, Fang veut dire le territoire, et Hua veut dire parole.
Donc, il y a cette intonation, c'est rien que l'intonation est assez complexe.
C'est bien plus qu'une intonation, le chinois est une langue à ton. Pei veut dire, quand on prononce Pei, veut dire le Nord. Quand on dit Pei, ça veut dire une couverture. En d'autres termes, il faut faire une musique, on appelle ça des tons. Comme les langues bantoues d'Afrique sont aussi des langues à ton, c'est-à-dire dans lesquelles la voix fait monter, descendre, ou bien les deux à la fois, ou ponctuel, sans changement musical. Bon, le chinois est une langue à ton, la phonétique est complexe, mais il n'y a pas de morphologie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conjugaison, changement de forme verbale comme en français et dans en romane en général, ou le russe, ou l'arabe, il n'y a aucune flexion nominale non plus, il n'y a aucune déclinaison, changement de forme selon la fonction. Donc le chinois est une langue très facile en termes d'apprentissage de mots qui sont absolument invariables. En revanche, comme il faut bien fabriquer des phrases et qu'on n'a aucun indice de flexion, de conjugaison ou de déclinaison pour les faire, il y a une chose capitale, c'est l'ordre des mots. Il ne faut pas se tromper d'ordre des mots. C'est lui qui indique les fonctions des mots. Donc le chinois est une langue à la fois très simple, mais ce sont des monosyllabes indéclinables, absolument invariables, et très complexe parce qu'il faut apprendre des tons et ne pas se tromper de mélodie. Et il faut d'autre part ne pas se tromper d'ordre des mots.
Oui, parce qu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. On devine par la phrase où
enfin,
on est.
Le présent est exprimé par un adverbe qui signifie en ce moment, le passé par un adverbe qui signifie dans le passé, et le futur par un autre adverbe qui signifie dans l'avenir. Donc il y a des manières qui ne sont pas des flexions verbales, comme en français, d'exprimer le temps.
J'ai toujours été fasciné par le fait qu'une langue aussi façonne le cerveau, l'esprit et la manière de penser, peut-être, des personnes et des cultures, non ?
Parce que malgré les différentes langues et ce qu'elles expriment, est-ce que finalement, on peut retrouver dans toutes les langues les mêmes choses, les mêmes préoccupations ? Est-ce qu'il y a des domaines que la langue n'évoque pas ou que
La réponse est double. D'abord, elle va être décevante. Contrairement à ce que votre question implique, les différences de morphologie, de syntaxe, de sémantique ou de phonétique entre les langues ne sont pas telles qu'elles empêchent un exercice capital aussi vieux que le monde qui réduit, je ne dirais pas à zéro, mais fortement l'hypothèse que vous semblez défendre de la difficulté de transférer une pensée d'une langue à une autre. Cet exercice s'appelle la traduction. On peut tout traduire. Et dans la mesure où on peut tout traduire, où n'importe quelle langue est traduisible en n'importe quelle autre langue, ça signifie que bien qu'il y ait bien entendu une certaine pression exercée par les types de langues sur le mode de pensée, il y a quand même un fond commun qui est mis en valeur par la possibilité universelle de traduire. Bon. Cependant, quelles sont les particularités? Elles ne sont pas de l'ordre que l'on croit, ce n'est pas tant le fait que l'on pense différemment selon la langue que l'on parle, c'est qu'il y a des milieux écologiques et des milieux intellectuels différents. Il est clair que des langues amérindiennes, qui sont des langues de gens au contact d'innombrables animaux et d'une nature exubérante, ont un bien plus grand nombre de mots pour désigner les espèces végétales et animales que nous ne désignons pas dans nos langues. Il est clair de même que les langues australiennes, dans lesquelles, et africaines également, les relations entre les parents, cousins au 4e, 5e, 6e degré, grand-père, grand-mère, etc., les relations sont très importantes dans la cohésion de la vie de la tribu, auront des termes de parenté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches. J'entends des termes inanalysables, pas des termes que l'on peut décomposer, des termes que l'on peut traduire en français par des composés ou par des périphrases, mais qui, dans ces langues-là, sont souvent des termes premiers, non analysables, parce que les langues en question sont le reflet ou l'expression d'un certain système, ici celui de la parenté. En d'autres termes, je dis ça pour montrer qu'il y a bien un point sur lequel la différence de nos langues reflète des différences de culture, mais encore une fois, même si c'est moyennant des périphrases ou des explications un peu longues ou des notes en bas de page, tout est traduisible.
Vous êtes bien sur Radio Nova, vous écoutez Le Pudding, en compagnie de Jean Croc et de Nicolas Herrera, avec aujourd'hui comme invité Claude Agege. Alors on va venir à votre livre, Les religions, la parole et la violence, Claude Agege, votre dernier livre. Donc c'est un livre vous posez la question, mais pour quelles raisons les discours que tiennent les diverses religions, au lieu d'unir les humains, sont-ils loin d'être des facteurs de paix? C'est votre base de question.
Merci, c'est une très bonne question. La réponse, je crois, peut être donnée en termes simples. Chacune des religions, alors qu'elles devraient en effet être unies par le fait qu'elles répondent toutes à des angoisses, angoisses devant le monde inexplicable,
la mort essentiellement,
devant la mort que l'on refuse, également devant l'existence du mal que l'on considère comme intolérable, sont amenées à être en conflit les uns contre les autres. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est dans l'essence même de chaque religion de se considérer comme supérieur à l'autre. L'évangélisation, pour donner qu'un exemple, les prêtres que j'ai rencontrés souvent quand je vais dans la brousse d'écrire des langues tribales ou africaines ou autres isolées, les prêtres qui ont pour mission de convertir, d'évangéliser, ne disent pas explicitement « le christianisme que je t'apporte vaut 100 fois mieux que ta religion ridicule qui ne vaut rien », mais c'est pour ça qu'ils sont là. Sinon, ils ne tenteraient pas de convertir à la religion qu'ils apportent des populations qu'ils vont voir. Donc chacune des religions, et ça a été la même chose dans le cas de l'islam, c'est-à-dire que les tribus polythéistes qui divinisaient un certain nombre d'accidents naturels ou d'éléments considérés comme investis d'un pouvoir particulier dans l'Arabie, dans la plateforme syro-arabe en partie désertique, ont été islamisés par une religion monothéiste qui leur indiquait que c'était 10 fois mieux de croire en un seul Dieu tel que le Coran le présente. Bon, il en va de même au tout début du judaïsme. Le judaïsme, évidemment, est dans une situation particulière. Quand vous êtes persécuté, quand vous êtes pourchassé, vous ne pouvez pas en même temps diffuser. Mais le judaïsme, pendant la brève période où il était en rivalité avec le christianisme, qui était lui-même du reste encore pourchassé, qui n'avait pas encore, avant l'édit de 313 pris par Constantin, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, le judaïsme, quand il a été dans une situation, je ne dirais pas de domination, mais pas encore précaire, a été comme toute religion, une religion prosélytique. Il y a des cas de conversion à la cour des empereurs romains, et nous savons que la favorite de Néron était juive, ainsi qu'un de ses chambellans. Il y avait donc à la cour même des empereurs romains, au 1er siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après l'ère chrétienne et au 1er avant également, il y avait des cas de conversion au judaïsme. Évidemment, à partir du moment où le christianisme s'est développé en une opposition de plus en plus violente et de persécution extrêmement forte du judaïsme, le judaïsme s'est replié sur lui-même et a cessé d'être prosélytique. Mais il est dans l'essence de toute religion d'être prosélyte et de se présenter comme supérieur, d'où les conflits entre elles.
C'est étonnant comme position intellectuelle de se sentir supérieur à une autre religion, alors que ça prône théoriquement la paix, ça prône la tolérance. La religion, c'est quelque chose. Il y a quelque chose d'antinomique.
Il y a quelque chose qui s'ajoute à.
Et vous expliquez comment cette.
Je l'explique par un fait, vous avez tout à fait raison. Mmh. C'est une très bonne remarque. Excusez-moi de cerner des satisfaits comme ça. Mais c'est juste. Je l'explique en fait très simple, c'est que les religions sont aussi fondées sur un besoin de domination. La plupart du temps, les religions, et en particulier les ministres des religions, sont alliés au pouvoir politique. Et cette alliance a pour effet que, ainsi que pour motivation d'ailleurs, les deux à la fois, que les religions se présentent sur un terreau qu'il faut conquérir sur le plan du pouvoir. En d'autres termes, la réponse des religions à l'angoisse de la mort, à l'angoisse de l'inconnaissable, au besoin de transcendance et à le refus de l'existence intolérable du mal est une réponse qui investit ceux qui le répandent d'un pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs étant en principe entre eux nécessairement en opposition, les religions en viennent à se dresser les unes contre les autres. Ceux qui se dressent les unes contre les autres, c'est moins un contenu religieux que des prétentions de pouvoir politique et de domination.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sort de la sphère spirituelle pour entrer dans une sphère de pouvoir. C'est ça qui donne...
On peut le dire, en effet. Sur le plan spirituel, bien qu'il existe toutes sortes de textes chez Saint Thomas, chez Luther, chez un certain nombre d'autres, et chez les philosophes juifs également, et chez les philosophes musulmans et penseurs, il y a naturellement des débats théoriques qui aboutissent à l'idée que par tel ou tel point d'eschatologie, de métaphysique, d'insistance sur les destinées humaines, etc., telle religion apporte des réponses plus satisfaisantes que telle autre. Ça existe, mais ça n'est pas tellement important. Les vraies raisons sont de l'ordre de la domination politique, et quelquefois même, dans le cas des premiers siècles, des premiers temps de la plupart des religions, elles sont de l'ordre de la revendication territoriale. Au tout début de l'islam, par exemple, je peux dire ça sans aucune polémique, naturellement, lorsque le prophète de son vivant et par la suite les califes qui l'ont succédé, Abou Bakr en particulier, son premier successeur qui était en même temps son beau-père, puisqu'il avait parmi ses femmes Aïcha, la fille d'Abou Bakr, le premier calife, et bien à cette époque-là, nous sommes entre 620, 630 et 650, au début, au milieu du 7e siècle, et bien les attaques de caravanes, les combats contre de riches caravanes sont presque autant fondées sur des besoins d'une expansion territoriale et d'un butin que sur le besoin de convertir. Les deux vont ensemble.
Et est-ce que la laïcité modifie le comportement justement des religions ?
La laïcité, qui est évidemment un idéal, qui est de loin ce qu'il y a de mieux, je m'excuse de prononcer des jugements de valeur comme ça, la laïcité ne se préoccupe pas d'être supérieure aux religions. Voilà. Elle a pour principale préoccupation de permettre l'exercice libre de toutes ces religions et de réduire les conflits entre elles. Contrairement à ce que l'on croit, la laïcité n'est pas un ennemi, un adversaire des religions. Elle prend des dispositions destinées à leur permettre, à les aider même, à se développer entre elles, mais surtout pas en ayant des conflits.
C'est un cadre qui permet de...
Oui, un cadre de dialogue. Voilà. Et évidemment, à cela s'ajoute que la laïcité, en principe, est enseignée, est officielle, car dans les écoles qui relèvent de l'État, la majorité, en principe, dans la plupart des démocraties occidentales, la laïcité est le mode de pensée qui est enseigné, car les démocraties occidentales n'ont pas pour fonction, ni pour finalité, d'enseigner les religions aux enfants. Cet enseignement est pris en charge par les ministres des cultes, évidemment, avec lesquels il y a tel ou tel accommodement variant selon les cas.
Il y a très peu d'États laïques. Hein, je crois qu'il y a la France, le Portugal, je crois.
Oui.
Et il y avait la Turquie, mais la Turquie est en train de changer.
La Turquie d'Atatürk était laïque, parce que lorsqu'en 1928, Mustafa Kemal lance sa grande réforme, évidemment la laïcité, modèle français sur un modèle occidental, est prônée comme une avance très importante. Mais dans la Turquie d'aujourd'hui, il semble que M. Erdogan, dont le parti est appelé islamo-conservateur, soit en train de remettre en cause de façon... Enfin, j'ai vu une photo qu'il voyait, qu'il montrait en discussion avec des étrangers qu'il recevait. Il y a dans son bureau, on le voit tout de suite, comme dans le bureau de la plupart des responsables, une immense photo d'Atatürk. Évidemment, il n'ose pas vouloir supplanter lui-même. Il n'a pas cette démesure, le kémalisme. Je pense qu'à long terme, c'est une des raisons pour lesquelles le référendum tout proche, pour lequel il veut se faire attribuer quasiment les pleins pouvoirs et proposer à la population turque, il veut, M. Recep Erdogan, il veut s'assurer la domination d'un pays dans lequel l'islam, sans redevenir ce qu'il était autrefois, religion d'État, serait en tout cas qui sont pénétreraient de façon plus profonde qu'aujourd'hui dans une Turquie en partie laïcisée, au moins les élites des grandes villes, la vie quotidienne des gens.
Vous êtes bien sur Radio Nova, vous écoutez Le Pudding, en compagnie de Jean Croc et de Nicolas Herrera, avec aujourd'hui comme invité Claude Agege. Alors on va continuer à parler de votre livre, Claude Agege. Donc on a parlé un peu des religions, disons, occidentales et du Moyen-Orient. Il y a les religions asiatiques, alors là-dessus, donc là on rentre plutôt vers le bouddhisme, le confucianisme.
L'hindouisme.
Donc ça c'est des religions différentes. On y rentre où il y a moins de soumission, hein, c'est ça que vous expliquez.
Sont-ce des religions ou pas, ce sont des sagesses, des philosophies, des croyances.
Oui, ça peut être aussi des philosophies, non pas complètement une religion au sens occidental du terme.
C'est ça, ce ne sont pas des religions tout à fait au sens occidental du terme, comme vous dites très justement. Alors bon, mon livre est le seul, je ne veux pas avoir la démesure de le présenter comme quelque chose d'unique, mais est le seul à ma connaissance, puisque j'ai regardé beaucoup de livres, qui ne se contentent pas, comme tellement d'ouvrages aujourd'hui, d'examiner les trois monothéismes, mais qui examinent aussi toutes les grandes religions
de l'Orient proche et lointain. C'est pour ça qu'il est passionnant, votre livre.
Et l'examen des religions proches et lointaines, de l'Orient proche et lointain, pour moi, me paraît tout à fait nécessaire, appelé presque de façon complémentaire par l'examen des trois monothéismes sur lesquels on a beaucoup écrit et sur lesquels je ne pouvais pas, moi aussi, ne pas consacrer trois chapitres successifs, évidemment. Bon. Une façon que j'ai essayé de rendre originale, puisqu'il y a une littérature énorme là-dessus. Tandis que sur les religions et les croyances et les philosophies de l'Orient proche et lointain, il n'y a presque rien. Bon. Et il y a encore moins d'ouvrages comme le mien qui les comparent et qui les contiennent tout à la fois. Bon. Je parle également du transhumanisme. Pourquoi ? Eh bien parce que, dans la même partie, le transhumanisme apparemment n'a pas grand-chose à voir avec le bouddhisme, le confucianisme ou le brahmanisme, l'hindouisme.
Aujourd'hui, avec nous dans le pudding, Claude Agege.
Faites bien attention.
Qu'est-ce qui fait dans la vie, ton copain ?
C'est notre expert en texte chinois.
Ça n'a pas de prix.
Claude Agege.
Et la parole ? D'où vient la parole ?
Je sens toutes les blarblées. J'étude et jamais je ne plosse-toi.
Je serais curieux de savoir où vous voulez en venir.
À mon avis, ils proviennent d'une langue très ancienne dont les mots représentent l'expression pure et simple du subconscient.
Vous feriez mieux de comprendre ça tout de suite.
Claude Agege.
Le pardon de Dieu est gratuit.
Comment savoir si l'on refuse de croire ?
Sur une langue très curieuse.
Claude Agege.
La foi peut soulever des montagnes.
Mais à une seule condition.
Alors, le transhumanisme, c'est quoi pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est ?
Eh bien, c'est une philosophie qui essaye de dépasser la condition humaine, comme l'indique son nom. C'est un post-humanisme autant qu'un transhumanisme, et elle essaye de le faire en s'adressant à des biologistes, des philosophes, des physiciens, des chimistes, des chercheurs, car elle a, et c'est ce que je voulais vous dire précisément, c'est une des raisons pour lesquelles je la mets dans la même partie du livre, la troisième partie, que les trois religions, confucianisme, bouddhisme, etc., elle, exactement comme le Bouddha, le transhumanisme entend vaincre les trois choses que le Bouddha, lorsqu'il était un prince du nord-est de l'Inde qui quitte son palais et qu'il va dans le monde, il découvre quelque chose qu'on lui avait caché dans son enfance extrêmement luxueuse de petit prince. Il découvre les trois grands maux de l'humanité, selon lui, la maladie, la vieillesse et la mort. Or, le transhumanisme, qui n'est pas le bouddhisme, a ce point commun avec lui de vouloir lui aussi réduire la maladie, la vieillesse et la mort. Donc, c'est la raison pour laquelle je les traite dans une même partie. Et ce besoin, seulement le Bouddha n'avait évidemment pas à sa disposition les moyens que nous avons aujourd'hui. Je dis, c'est une hypothèse d'ailleurs que je fais, la vie intérieure, le recueillement, le repli sur soi, qui est l'enseignement essentiel du Bouddha, aurait sans doute été enrichi par quelque chose d'autre si, à l'époque du Bouddha, l'homme était très intelligent, il avait eu sous la main les moyens techniques et scientifiques que nous avons, ben, il les aurait recommandés tout autant. Et là, par conséquent, la vie intérieure, le repli sur soi, le recueillement, qui sont les seules choses concevables dans un contexte historique où il n'y a aucun moyen scientifique comparable à ceux d'aujourd'hui, sont les choses qu'il demande. Mais sinon, le but, la fin dernière, est pas vraiment comparable. Il s'agit de réduire les grands maux, les grandes misères de l'humanité, c'est-à-dire ces trois-là, maladie, vieillesse et mort.
Alors il y a un moment très intéressant quand vous parlez de Confucius et vous expliquez la différence, enfin vous, c'est dans la philosophie, entre l'équilibre et l'harmonie. Et je trouvais ça passionnant.
Eh bien, Confucius, sur ce plan, est un homme très traditionnel. Mmh. Nous sommes au 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne.
Donc c'est en Chine. Hein, pour,
voilà. En Chine. Confucius est une latinisation par les jésuites. Les jésuites sont ceux qui, au début du 7e siècle, ont répandu le confucianisme dans toute l'Europe, au grand émerveillement des Européens qui ne connaissaient rien à tout cela. Bon, donc ils ont latinisé le mot Confucius, c'est-à-dire maître Kong, en Confucius. Bon, c'est normal pour parler de jésuites. Eh bien, son idée, c'est que, de même que l'empereur régit l'humanité, régit son immense empire en appliquant les lois du ciel et en mettant le monde en harmonie avec la société. La société doit être sur le même diapason que l'univers, que ses événements, que ses mouvements. De même, Confucius considère que la façon la meilleure de vivre, c'est d'harmoniser l'existence quotidienne avec les lois de la nature. Et c'est pour ça que cette espèce d'harmonie entre l'existence quotidienne et la loi de la nature a des résonances tout à fait intéressantes. D'abord, elle a des résonances dans d'autres religions de l'Extrême-Orient. Le brahmanisme prône à peu près la même chose. Le shintoïsme aussi. Et le transhumanisme, qui n'est pas une religion de l'Extrême-Orient. Et aujourd'hui, on peut considérer que l'écologie, sans se réclamer ni du bouddhisme ni du confucianisme, a des rapports très intéressants, étroits, avec ces philosophies.
Est-ce que c'est justement l'écologie, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec les cultures amérindiennes ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose
peut y avoir un lien dans la mesure où il s'agit aussi d'être en harmonie avec l'univers, avec la nature, et non pas de la détruire et non pas de la malmener de façon violente comme le font beaucoup de sociétés occidentales. Il s'agit de la respecter, comme le font aussi d'ailleurs.
Dans le livre des Hopis, par exemple, quand on lit le livre des Hopis, donc d'être une tribu amérindienne, il y a cette idée de justement d'harmonie avec la nature.
Les Hopis sont des gens qui, comme beaucoup d'autres tribus indiennes, les Sioux, les Cherokees, les Iroquois, en sont à la même situation, ont une relation étroite avec la nature, d'abord parce qu'elle est pourvoyeuse de leur subsistance, ils chassent et ils pêchent, ils cultivent quelquefois quand ils sont un peu sédentarisés et qu'ils ne nomadisent pas trop, et ensuite parce que la nature est leur protectrice, ils la considèrent comme telle, ce sont des religions naturelles. Donc évidemment, entre les populations amérindiennes, pour ceux qui en restent, pour ceux qui sont encore, qui vivent encore selon la tradition ancestrale, et les idéaux écologistes, il y a certainement des liens.
Alors, pour revenir à cette notion d'harmonie et d'équilibre, alors, je vais donc lire, « Quand il ne s'élève dans l'âme aucun sentiment de joie, de colère, de tristesse ou de plaisir, on dit qu'elle est en équilibre. Et quand ces sentiments naissent dans l'âme, sans dépasser la juste mesure, on dit qu'ils sont en harmonie. » Ça, c'est assez beau comme... C'est-à-dire là, juste d'être juste en mesure, ça suffit, on est en harmonie. C'est-à-dire on peut arriver à être à peu près en paix avec soi-même, quoi, c'est ça.
Ce texte célèbre du Lu Yu, c'est-à-dire les entretiens de Confucius, de Confucius, au fond définit la sérénité,
c'est ça.
Ou l'attitude de l'ataraxie, pour prendre le terme des philosophes grecs, des stoïciens, c'est-à-dire l'absence de troubles, l'absence d'émotions trop fortes de l'âme, et elle considère ça comme un idéal qui met les êtres humains en harmonie avec la nature, avec l'univers, au lieu de les dresser contre elle et d'introduire des discordances génératrices de malheur ou de déséquilibre. Donc on a affaire ici, dans ce confucianisme et dans le beau texte dont vous venez bien gentiment de donner lecture, à quelque chose de très proche finalement des idéologies d'autres religions de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire brahmanisme et le confucianisme et du bouddhisme. En revanche, j'ajoute une chose qui me paraît très intéressante, que je signale d'une façon un peu latérale dans le livre, mais que je voudrais souligner ici, c'est que cette idée de l'harmonie entre les sociétés humaines et la nature et l'univers n'est pas une idée prégnante ou dominante dans les monothéismes de l'Occident. Et la région d'ailleurs en est...
Oui,
en...
c'est étrange. Hein, ça.
Oui, j'ai une explication à donner, parce que ça pourrait paraître...
Même cette notion-là n'est même pas vraiment étudiée, en fin de
non,
compte.
Non, non, non. Mais je proposerai une explication, volontiers. C'est que, précisément, il y a quelque chose dans ces religions de l'Occident, monothéistes, qu'il n'y a pas dans les religions et les croyances et les philosophies d'Extrême-Orient, à savoir la croyance dans l'immortalité, ou en tout cas dans la survie, et le jugement dernier, enfin tout ce qui arrive après la mort. Bon, après la mort, en somme, on connaît une autre vie. Bon, c'est une illusion complète, évidemment, par rapport à ce que la science nous enseigne. Nous n'avons jamais vu personne avoir la moindre vie, ni revenir pour en faire un rapport. Et les religions, par conséquent, ici, consolent ou rassurent l'anxiété humaine. Et elles le font en répercutant sur une vie éternelle, de l'au-delà, les êtres humains. Elles ne le font pas du tout comme le font celles de l'Extrême-Orient, en assurant un équilibre entre l'être humain sur Terre, dans le ici, maintenant, notre vie quotidienne, qui est la façon de prendre les choses dans ces philosophies orientales. Donc on a affaire ici à deux conceptions tout à fait différentes.
Oui, parce que c'est dans les conceptions occidentales, disons, c'est une promesse qu'on vous fait, et on vit dans une promesse.
Le présent, c'est pas qu'il ne compte pas, mais c'est l'hypothétique accès à une vie après la mort.
Il est défini en effet en fonction de ce qu'on espère qu'il va arriver, alors que cette préoccupation-là est d'autant moins présente dans les philosophies de l'Extrême-Orient que précisément, comme le transhumanisme lui-même, qui en est si proche, hein, bien que ce ne soit pas une religion, on lutte pour différer la mort,
c'est ça.
Pour la réduire, pour prolonger la vie le plus longtemps possible, loin de considérer que la vie sur Terre, la vie ici-bas, n'est qu'une préparation à la vie future qui sera celle de l'au-delà, comme les religions monothéistes de l'Occident. Au contraire, on met l'accent sur ce que la vie disponible immédiatement, celle que nous vivons, peut contenir de virtualité, de richesse et également de possibilités de prolongation par les moyens techniques d'aujourd'hui. C'est ça. Dans le transhumanisme, je suis en train de parler en fait du transhumanisme, mais bien que, comme je l'ai dit, le Bouddha ne possédât pas les moyens de faire ce que permettent de faire les sciences aujourd'hui, son idée, par un autre biais, qui est celui donc du recueillement, du repli sur soi, c'est aussi l'idée d'enrichir au maximum les virtualités de notre vie dans l'ici-bas.
Alors, il y a une notion qui s'appelle donc agnostique. Alors, agnostique, vous en parlez peu, voire pas, dans votre livre. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une religion, pas une religion ? Est-ce que c'est l'absence de religion, en tout cas ?
Les agnostiques, comme l'indique le nom avec son préfixe privatif « agnosos », qui veut dire la connaissance religieuse, sont des personnes qui refusent d'entrer dans les débats sur une transcendance. Bon. Est-ce qu'un agnostique est un athée ? Est-ce qu'un athée est un libre penseur ? On peut considérer qu'entre un agnostique, un athée et un libre penseur, il y a quand même des rapports étroits. L'un refuse d'entrer dans des débats religieux, l'autre ne croit pas en Dieu carrément, et le troisième a une liberté de pensée à l'égard de l'enseignement religieux. Bon. Ce qu'il faut dire, et que je dis dans mon livre, au tout début, dans les premières lignes, c'est que cette position, qui ne se fie pas au renfort des religions qui nous donnent des clés, qui expliquent tout et qui par conséquent nous rassurent, cette position d'agnostique, d'athée ou de libre penseur est une position courageuse. Il faut du courage, puisqu'elle consiste à refuser le secours et l'espérance ou la promesse qu'apportent les religions de l'Occident. Sur ce plan, donc, pour être un agnostique ou un athée en libre penseur, il faut une certaine force de réflexion.
Donc, arrêtez-moi si je me trompe, mais donc l'agnostique, c'est quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, mais sans religion. L'athée est plus fermé à la spiritualité, évidemment.
À la spiritualité des religions.
Il y a une spiritualité de l'athée, on peut pas dire qu'il n'en est pas. La spiritualité de l'athéisme, c'est aspiration à un mieux-être.
Ce serait l'art, un peu.
C'est les expressions artistiques et créatives, la créativité, l'inventivité dans le domaine de la création artistique, en effet. Et c'est une série de comportements qui, simplement, se différencient de ceux des croyants des grands monothéismes par le fait qu'ils ne se réfèrent pas à une transcendance. Et la contradiction...
Transcendance, pour nos auditeurs, c'est Dieu, quoi, en gros.
C'est l'idée que ça vient...
Il y a une supériorité, on est inférieur à cette
C'est quelque chose qui domine ou qui surplombe l'humain. voilà, qui le transcende, qui va au-delà de lui. Alors l'athée ne se réfère pas à cela.
C'est vertical hein, comme concept.
On peut dire qu'il y a une verticalité en effet. Vous êtes très soucieux d'expliquer les mots. Hein.
Oui, parce que je pense que c'est intéressant que les auditeurs, ça, voilà, parfois... les mots.
Est-ce à dire que j'emploie des mots trop compliqués ?
Non, mais je pense qu'on ne s'arrête pas assez. D'abord, les mots sont intéressants. C'est à vous que vous ne pouvez pas dire le contraire. Et je pense qu'on ne s'arrête pas assez sur les mots, des fois.
Non, c'est vrai. Bon, donc, je pense qu'on ne peut pas dénier à l'athée une spiritualité. Simplement, elle n'est pas du même ordre. Elle ne se réfère pas à une transcendance, c'est-à-dire à un pouvoir divin qui surplombe les initiatives humaines. Et elle se réfère à ce que l'homme peut produire de meilleur, disons, qui pourra lui survivre. La spiritualité de l'athée, mettons un artiste, un musicien, un peintre, un sculpteur athée, eh bien, sa spiritualité, lorsqu'il a ce métier de créativité, de création, elle se manifeste dans le fait qu'il crée des choses qui lui survivront. Et à cet égard, dans la mesure où elles ont une relative permanence, si elles ne sont pas détruites comme objets matériels destructibles, on peut dire qu'elles ont une valeur d'éternité comparable à l'éternité que l'on promet aux croyants dans les religions monothéistes.
Donc, mais là, on est dans une horizontalité là, dans ce cas-là. On n'est plus dans une verticalité.
Oui, parce que c'est quand même une verticalité dans la mesure où il s'agit d'une descendance. Ça s'inscrit dans le temps. Et dans la mesure où ça s'inscrit dans le temps, les œuvres qui vont survivre à un créateur sont des œuvres de la durée. C'est pas vertical dans la mesure où ça n'est pas une relation entre un être humain de l'ici-bas et ce qu'on veut répercuter et qui est, chez les Chinois, c'est le ciel. Tian, le mot chinois qui veut dire le ciel. Dans les religions monothéistes, c'est Dieu. Donc, c'est pas cette verticalité-là. Mais il y a une verticalité au sens de la transmission historique du ici, maintenant, à ce qui va nous suivre
tard, quoi.
Dans le temps.
Et vous-même, Claude Agege, vous situez comment dans cette, dans toutes ces philosophies, dans toute cette... Est-ce que ça a été fluctuant? C'est fluctuant. Vous êtes parti d'un endroit pour arriver à un autre.
Pardon?
Vous êtes parti c'était un processus, croyant, puis après plus croyant, ou jamais croyant, ou au contraire, de plus en plus croyant.
Mon itinéraire est très simple. Je suis un homme qui continue de pleurer et de bénir ses parents. Pourquoi est-ce que je continue de pleurer et de bénir mes parents? Parce que mes parents n'ont pas fait ce que font la plupart des parents qui considèrent comme de leur devoir, quand ils ont une croyance, de la transmettre à leurs enfants. Bon, un enfant chrétien, un enfant catholique, même si après il se désolidarise ou que, à raison même de la pression insupportable pour lui, exercée sur son enfance par un enseignement religieux, il veut se libérer, est soumis, contre son gré, sans l'avoir jamais demandé, quand il est tout petit, à une pression religieuse. Mes parents ont eu ceci de merveilleux. Ils ne m'ont enseigné aucune religion, ils ne m'ont fait croire aucune religion. En revanche, comme c'est des gens cultivés et curieux, ils ont fait que je puisse être l'auteur de ce livre, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné une bonne et solide information sur toutes les religions. En d'autres termes, je suis un homme qui peut, comme je l'ai fait avec cet ouvrage « Les religions, la parole et la violence », écrire un ouvrage sur les religions, sur toutes les religions, sur toutes celles sur lesquelles nous avons une information minimum, ce qui ne signifie en rien que j'adhère à aucune d'entre elles. À quoi est-ce que j'adhère ? À rien du tout. Je suis donc un non-croyant. Je me place dans la catégorie que j'ai définie à l'instant, c'est pas très modeste, des gens courageux, c'est-à-dire qui, qui ne prennent pas le renfort d'une foi, d'une croyance, pour y trouver les clés à l'inconnaissable, à l'inexplicable et à l'intolérable existence du mal. Je vois tout cela devant moi, je fais une immense confiance à la science. Si j'ai une religion, sur ce plan, je peux paraître un peu contiste, j'ai un chapitre sur Auguste Comte, vous l'avez marqué.
Juste avant la transhumance.
Oui, si j'ai une religion, dans la mesure où c'en est une, c'est celle de la science, c'est-à-dire que, ou de l'esprit humain. Je fais à l'esprit humain une confiance immense.
Ça vient
d'Auguste
Comte, donc ça c'est le contiste.
Auguste Comte, c'est l'esprit humain auquel je fais la plus grande confiance. Mais je vais plus loin, vous avez pu remarquer à la fin de mon ouvrage, je parle du spectre redoutable de l'entropie. Nous savons...
Alors, qu'est-ce que l'entropie ?
Pardon ?
Qu'est-ce que l'entropie ?
Je vais te dire.
Voilà.
Nous savons que l'univers, la Terre, et au-delà d'elle l'univers, va vers un processus de dégradation constante. À l'origine, c'était quelque chose qui était développé sur un terrain très simple et très concret, très précis, par un homme de génie, le fils du grand Carnot, l'organisateur de la victoire sous la Convention, qui a été un homme merveilleux, Lazare Carnot, un conventionnel, siégé à la gauche de la Convention sous la Révolution. Son fils, un de ses fils, c'est qui est Sadi Carnot, était un grand physicien. Et dans les années 1820-25, il fait une communication à l'Académie des sciences, récente à l'époque, et il montre qu'il y a des principes de la thermodynamique. Et le second principe de la thermodynamique, très très célèbre chez les physiciens, je ne suis pas physicien, mais étant curieux de tout, de beaucoup de choses, je suis au courant de ce second principe. Le deuxième principe de la thermodynamique, il faudrait dire deuxième parce qu'il n'y en a pas seulement deux, le deuxième principe de la thermodynamique consiste à dire qu'il y a une dégradation et que l'énergie, à mesure que le temps passe, ne cesse de se dégrader et que c'est irréversible. Et si on applique ce principe à l'univers lui-même, l'univers entier ne cesse de se dégrader. Le soleil qui nous éclaire et nous donne la vie, l'existence même, dans 5 milliards pour certains astrophysiciens, 7 milliards pour d'autres d'années, ne sera plus qu'une boule de glace. Et la vie sur Terre, évidemment, aura totalement disparu depuis longtemps. Et tout cela s'appelle l'entropie, c'est-à-dire la transformation progressive vers une disparition. Nous sommes condamnés à cela. Mais, dirons-nous, quelques milliards d'années, ça donne à ceux dont j'ai le culte, à savoir l'esprit humain, l'intelligence humaine, la possibilité, point d'interrogation, de trouver des parades, des réponses à ce danger mortel pour la Terre. Et on appelle cela, d'un terme du grand physicien autrichien Schrödinger, on l'appelle la négentropie, c'est-à-dire ce qui nie l'entropie. La négentropie, c'est pour l'essentiel l'activité de l'esprit humain qui essaye de contrer l'évolution redoutable de l'énergie vers une destruction complète.
Donc ce serait ça votre religion?
En effet, c'est ça ma religion, c'est celle de l'esprit humain. Et de sa créativité et de son inventivité.
C'est une belle religion.
Comment ?
C'est une belle religion.
Est-ce une religion ? On peut s'interroger. Parce qu'évidemment, là-dedans, il n'y a pas... Contrairement au contisme qui, lui, prévoyait des prêtres, hein, dans cette religion-là, il n'y a pas de ministre du culte, il n'y a pas de foi en une transcendance, il y a une confiance immense et illimitée faite à la capacité créative et inventive de l'esprit humain.
Et comment vous sentez le monde, justement, puisque vous voyagez beaucoup, quel est le... C'est pas l'image que vous avez en ce moment du monde que vous, enfin en tout cas le monde occidental, comment?
Eh bien, l'image que j'en ai est très simple. Elle n'est pas parabolique, elle est sinusoïdale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regrette qu'on ne soit pas à la télévision parce que les auditeurs et les spectateurs verraient mon geste. Elle ne fait pas ça. Elle ne va pas d'un point vers un autre en dessinant une parabole, en montant. Ça, c'est une vue que je crois surannée et qu'on ne peut pas démontrer. En revanche, si on a une vue sinusoïdale, si on l'appelle comme une sinusoïde, l'évolution connaît des hauts et des bas.
Comme une vague, disons.
Comme une vague. Elle connaît des anticlinaux et des synclinaux. Elle connaît des sommets, des crêtes et des creux de la vague. Nous sommes dans une période en ce moment, du point de vue, disons, de la liberté, de la démocratie, du nationalisme, d'une conception irénique des rapports pacifiques, des rapports entre nations, entre individus. Nous sommes dans une époque de creux de la vague, c'est-à-dire qu'il y a des affrontements violents, il y a manifestations guerrières de l'identité, et à cet égard, ce qui est assez amusant, et qui montre que le progrès n'est pas du tout parabolique mais sinusoïdal, nous sommes en retrait complet par rapport à la fin du 19e siècle, qui a été une époque extrêmement internationaliste. Comme on le sait, et c'est là qu'il y a eu toutes sortes de grands esprits internationalistes. Et nous sommes donc dans un creux de la vague, ce qui veut dire que nous pouvons très bien remonter, aller vers un sommet, vers un anticlinal s'opposant à ce synclinal, si je continue cette métaphore géologique. Et ma vision, par conséquent, c'est celle d'une évolution en zigzag, en sinusoïde, et non pas d'un bien vers un mal croissant, où le bien soit irrécupérable. Je n'ai pas cette conception.
Vous êtes bien sur Radio Nova, vous écoutez Le Pudding, en compagnie de Jean Croc et de Nicolas Herrera, avec aujourd'hui comme invité Claude Agege.
Actuellement, le spectacle de la violence, par exemple, que nous voyons autour de nous, pas seulement, évidemment, très fortement, celui de la conception la plus rigoriste et la plus fanatisée de l'islam, mais la violence aussi nationaliste de toutes sortes de conflits tribaux ou régionaux ou nationaux entre pays en guerre, tout cela prend une forme paroxystique, à raison même des difficultés que l'on a à établir l'équilibre, comme le prônent justement les grandes philosophies d'Extrême-Orient, avec la nature. Bon. Alors, ça prend une forme très forte. Mais, à mon avis, étant donné que la vision de l'histoire que j'ai est plutôt sinusoïdale que parabolique, tout cela, à raison même du paroxysme que ça a atteint, va se résoudre en une époque beaucoup moins conflictuelle que les gens qui ont aujourd'hui 60, 70, 80 ans ne vivront peut-être pas, ou vivront peut-être s'ils vivent longtemps, mais qui en tout cas se préparent et dont on a quelques signes. Les signes qu'on en a, eh bien, c'est une aspiration générale à un peu plus d'équilibre avec la nature et un peu moins de conflits violents entre les sociétés.
Et est-ce que les religions ont-elles encore un avenir ? Est-ce que vous les voyez encore, ou alors elles vont évoluer ?
Oui, les religions ont un avenir, et elles en ont un pour une raison essentielle, c'est qu'elles apportent une réponse à la soif de transcendance. Moi, je n'ai aucune soif de transcendance. Mes parents ne m'ont jamais appris ça, et je suis très heureux comme ça. Mais la soif de transcendance est probablement inhérente à l'espèce humaine. Peut-être que j'en ai une quelque part et que je la méconnais ou que je la jugule sans vouloir lui donner libre cours. Mais la soif de transcendance, c'est-à-dire le besoin de croire en quelque chose de surnaturel qui dépasse notre condition, est une soif capitale. Je profite pour dire quelque chose que je n'ai pas dit, sur quoi vous ne m'interrogez pas, mais qui est un problème capital. Je le dis dans mon ouvrage avec insistance. Le christianisme, pour le fonder que lui, je vais essayer de le dire de façon la moins polémique possible pour ceux de vos éditeurs qui seraient des chrétiens convaincus. Le christianisme est fondé sur trois défis absolument radicaux, trois formes de défis frontales, absolument radicales, à des évidences naturelles et biologiques. L'un, c'est la naissance d'une vierge, l'autre, c'est l'essence divine, et la troisième, c'est la résurrection de Jésus. Aucune découverte scientifique, aucune connaissance biologique d'aucune sorte ne peut apporter le moindre appui à tout cela. Par conséquent, on pourrait croire que ces mystères, ces dogmes que les chrétiens croient, sont quelque chose qui va aller dans le sens d'une décrue du christianisme. Or, loin de là, au contraire, ça accroît son importance. Pourquoi ? Et parce qu'il y a chez les gens, dans les communautés, un besoin de croire à du surnaturel, un besoin de croire à une transcendance, et que par conséquent, la naissance d'une vierge de Jésus, sa nature divine et sa résurrection ne sont pas faites pour décourager les croyants. C'est l'objet d'un enseignement. La catéchèse n'a pas d'autre fonction. Et c'est quelque chose qui ne semble pas, quand on voit sa diffusion mondiale, avoir particulièrement nuit à la diffusion du christianisme.
C'est ça, c'est la part d'irrationnel, le besoin d'irrationnel qu'il y a chez l'homme.
Il y a un besoin d'irrationnel chez l'homme, et j'appelle ça également soif de transcendance. Moi, je ne l'ai pas, mais peut-être que je l'ai quelque part, mais je ne l'ai pas sous cette forme, en tout cas. Et encore une fois, mes parents ne m'ont jamais rien enseigné de tel. Alors que la plupart des parents chrétiens, ou juifs, ou musulmans, leur première préoccupation, c'est de transmettre leur foi à un enfant qui n'a pas demandé leur avis parce qu'il ne peut pas le donner. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose que je vois autour de moi, que tout le monde connaît, qui est un thème littéraire, un thème scientifique et tout, d'innombrables, prenons les chrétiens pour ne prendre que cela, d'innombrables écrivains, philosophes, etc., qui ont été, dans leur enfance, exposés très fortement à une religion et qui deviennent athées d'une façon agressive. C'est le cas d'un philosophe qui enseigne à Caen, et il y en a d'autres, il n'est pas le seul. Moi, je ne connais rien de semblable. Je trouve ça respectable, mais ça m'est totalement étranger. Je n'ai jamais, dans mon enfance, été agressé par l'obligation de croire à quelque chose contre quoi je me révolte dans le milieu adulte. Et dès lors, mon livre le montre très bien, mon discours sur la religion est un discours serein. C'est pas du tout un discours...
Non, c'est pas...
Est un discours nourri de connaissances.
Vous ne rendez pas de compte ?
Non. Absolument.
C'est presque c'est historique, d'une certaine manière, des choses historiques.
Absolument. Comme je n'adhère à rien, enfin, si je devais être disposé à parler de choses très personnelles, je suis dans une famille juive, et par conséquent, j'ai entendu, sans qu'on m'ait jamais obligé à y croire, un certain nombre de choses qui sont en rapport avec le judaïsme. Mais j'ai entendu aussi beaucoup de choses qui sont en rapport avec le christianisme et avec l'islam, puisque je suis dans un pays musulman, à Carthage, en Tunisie. Et les juifs me paraissent avoir une particularité que je souligne pas de façon trop appuyée, pour ne pas paraître considéré que c'est supérieur aux autres religions, mais ils ont une particularité, c'est qu'ils sont toujours là depuis plus de 5000 ans. Et que par conséquent, s'il y avait une sorte d'irrationnel ou d'étrangeté, certains diront c'est la protection de l'éternel, la relation entre Dieu et le peuple juif, enfin bon, ça, je ne dis pas ces choses-là évidemment, mais s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'étrange, de l'invraisemblable, c'est que voilà un peuple qui a été, depuis Amalek, personnage biblique, jusqu'à Hitler, personnage quasi contemporain, non seulement persécuté, mais la cible d'entreprises concertées de génocide. Et ces entreprises multiples, d'abord Amalek, ensuite Hitler, mais entre les deux, beaucoup d'autres, concertées de génocide, n'ont jamais eu raison du peuple juif. Il y a là quelque part d'étonnant, qui est un mystère, et que je ne explique en rien de façon religieuse ni de façon irrationnelle, mais disons, c'est de l'ordre des choses qui sollicitent la réflexion, je dirais.
La culture chinoise est dans cette... est aussi une vieille culture qui vient de très loin.
Ah oui, elle est extrêmement ancienne, bien sûr. Les dynasties légendaires, celle des Yue, celle des Yin, et ensuite la dynastie des Qin, des Qin Shi Huangdi, c'est-à-dire l'empereur jaune, le fondateur de la dynastie des Qin, c'est-à-dire celui qui a élevé la Grande Muraille et brûlé les livres du confucianisme, comme je le dis dans mon livre, elle est historique. Mais les dynasties préhistoriques ou légendaires, elles remontent au moins à 2000-3000 ans avant l'ère chrétienne. Et ce sont celles des... Je suis sinologue, j'ai fait beaucoup de chinois et je parle la langue évidemment couramment et je m'intéresse beaucoup à la Chine. J'ajoute d'ailleurs quelque chose d'anecdotique mais pas tellement. Il y a même des juifs chinois. Ils étaient autrefois dans la ville de Kaifeng sous les Song, une très grande dynastie qui se situe entre les Mongols et les Qing. Ils étaient donc commerçants, des professeurs, des médecins, des avocats, comme très souvent du reste les communautés juives dans le monde entier. Et étant donné les nombreux brassages, etc., ils ont les yeux bridés, ils présentent donc des traits ethniques asiatiques, mais ce sont des juifs. Ce sont des descendants de juifs, probablement émigrés jusqu'à la plaine du fleuve jaune, la plaine où est construite Pékin, dans le nord de la Chine, en partie désertique, enfin qui est une prolongation du désert de Gobi, parce qu'ils étaient des marchands de soie à travers la route de la soie dès les 2e, 3e siècles avant l'ère chrétienne. Parce que nous savons que les belles romaines, à l'époque de la fin de la République et encore plus au début de l'Empire, adoraient les soies que l'on achetait en Extrême-Orient. Les juifs ont pu être leurs marchands.
Eh bien, merci beaucoup Claude Agège.
Merci à vous.
Pour être venu dans le pudding et on recommande fortement votre livre « Les religions, la parole et la violence » aux éditions Odile Jacob. On a juste esquissé seulement un tout petit peu de ce que vous avez écrit, mais c'est passionnant et on apprend beaucoup, beaucoup de choses.
Très éclairant.
Merci.
Cette émission a été réalisée avec harmonie.
Tout à fait,
par Benoît. Équilibre aussi, enfin on ne sait pas très bien, il cherche, hein, Benoît, il cherche.
Oui, mais il n'est pas loin de retrouver, je crois.
Plus en harmonie qu'en équilibre, mais il cherche.
C'était Une Heure de Pudding avec Jean Croc et Nicolas Herrera.
Et notre invité,
Claude Agège.
À la semaine prochaine.
Même dimanche prochain, je pense.
Tout à fait, dimanche prochain.
Vous pouvez réécouter le Pudding sur le site de Radio Nova, novaplanète.com.